Mon rêve dans la vie, c'est d'avoir des pectoraux. Voilà.
Il va avoir... Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut faire des pompes, il faut faire des tractions.
Ouais. Je ne sais pas si je dois prendre conseil de vous là tout de suite.
Alors ça, mais... c'est vache. France Inter.
Le best-of. Augustin Trapenard.
Pour moi, faire de la scène,
Farid,
c'est écouter chaque silence, chaque mot, c'est attendre pour dire le bon mot, pour faire le bon son, pour faire la bonne mimique, c'est se lever au bon moment, c'est vivre chaque instant au bon moment. Chaque soir, ça va être différent parce que je vais allonger ce moment où je vais dire tel mot.
Ouais.
Et ça va être juste ce soir-là. Et ça, pour moi, c'est ça le présent. C'est des moments de poésie. C'est réussir à faire d'un instant qui était banal, que tout le monde a vu, un moment différent et donner un autre regard. C'est ça le stand-up.
Cécile Coulon.
Je pense que la poésie, c'est la permission du temps. En tout cas, la permission de se donner le temps, s'autoriser de faire un pas de côté. Pour moi, le métier de poète, c'est, je sais pas, c'est quelque chose qui est très monacal, c'est comme être un moine. C'est comme c'est accorder son pardon à l'humanité entière. If you know people who know me, you might want them to speak. C'est pour l'infirmière qui aide quelqu'un à passer de l'autre côté. Ce n'est jamais facile, mais elle sait que certaines lumières ont plus d'éclat une fois éteintes. C'est pour les dernières fois qu'on fait l'amour alors qu'on pensait que ça durerait toujours. Les amis, les films et les romans nous avaient pourtant prévenus. Non, ça ne durera pas. On se croyait plus fort et nous ne l'étions pas. C'est pour eux, mais surtout c'est pour toi. Je me couche dans ta vie comme un chat dans un rayon de soleil. J'écris pour te dire que je prends le risque de t'aimer. J'accepte d'être si atrocement, si humainement vulnérable à tes côtés. C'est pour eux, mais surtout c'est pour toi. J'écris parce qu'ici tout va bien, sauf que tu n'es pas là.
Lettre à Jean Soleil. C'est ton enfant, ta fille, devenue femme, qui s'adresse à toi par-delà ton absence. Nous sommes privés l'un de l'autre depuis plus d'un an. Et aujourd'hui, je veux te parler de ce livre que tu nous as laissé avant de retourner dans les étoiles. Pardon. Et je vais m'efforcer, avec mes pauvres mots, de te dire pourquoi.
Héloïse d'Ormesson, s'il devait y avoir une leçon de vie que vous a donnée votre père, quelle serait-elle ?
Vivre intensément le moment présent. Ne jamais rien regretter. Il s'étonnait de la vie, de son miracle. Et tous les jours, il remerciait l'existence de ce qui pouvait lui arriver. Et ça, je pense que c'est une fraîcheur, un regard qui ne s'est jamais émoussé, toujours étonné et toujours curieux. Une grande gaieté, beaucoup d'humour et une infinie gratitude à la vie et aux autres.
Annie Leibovitz.
Quand on me demande quelle est ma photo préférée, je pense à celle que j'ai prise de ma mère. Un portrait tout simple, destiné au projet sur les femmes que j'ai réalisé avec Suzanne Sontag en 1999. Elle a ce côté, on a l'impression qu'il n'y a pas d'appareil photo entre nous et que ma mère est simplement en train de me regarder. Une autre chose que j'adore dans cette photo, c'est que ça ne m'est pas donné tous les jours dans mon travail, cette proximité, cette intimité.
Mireille Mathieu.
Ce qui est important, moi, je fonctionne avec les sentiments et les émotions.
C'est ça, c'est-à-dire que vous, votre clocher, j'allais vous le dire, c'est un petit peu l'amour. Vous avez toujours chanté l'amour, vous avez
et
aussi...
Mon pays. Et mon pays, parce que je veux dire dans le sens que je peux comprendre qu'on peut être influencé par des musiques anglo-saxonnes. Je peux mais quand on me dit, mais pourquoi vous êtes connu dans tel pays, pourquoi on vous aime? Et j'ai la chance de faire le monde entier. Et c'est pour ça que je dis ça, je pense, parce que je suis restée française, fière de l'être, et en interprétant mon propre répertoire, tout en chantant dans plusieurs langues, bien sûr. Mais c'est important d'être fière de ses racines.
Farid,
je pense que le français est un petit peu arrogant, parce qu'il pense qu'on est encore dans cette période où la France était cette France glorieuse, même si c'est toujours un grand pays, n'en déplaise à Donald. Et je crois que, ouais, à l'étranger, peut-être, on bombe un peu trop le torse, peut-être qu'on se considère comme des Molières, tous un petit peu. Ça se manifeste par une attitude qui est différente, par un peu de... On est hautain, on traverse n'importe comment, on regarde les gens de haut. Je crois que c'est un peu ça.
che pianga mia cruda sorte.
Moi, enfant de la République, je ne serai pas enfant d'une minorité. Moi, enfant de la République, je promets de ne plus faire d'émeutes, de ne plus casser, de ne plus brûler nos voitures et taguer ma haine sur les murs si la France sait accepter et aimer mes révoltes comme Victor Hugo aimait les barbares. Je promets de ne plus aller aux manifestations en cagoule si on m'engage quand je mets mon visage sur un CV. Alors, moi, enfant de la République, je promets d'aimer la France, toujours, parce que la France m'aura adopté comme son enfant. Et je finis sur un jeu de mots. Si ça, c'est pas une main tendue vers la France de nos grands-pères, la France, Augustin Trapenard, nous, on l'aime ou on la kiffe.
Annie Leibovitz.
J'ai un point de vue. Et je pense que ça donne plus de force à mon travail. Ce qui m'intéresse, c'est raconter une histoire, si je peux. Et parfois, les événements se précipitent sous vos yeux et c'est tout ce qu'on peut faire. Mais il arrive qu'on ait à mettre en scène une photo. Or, je n'excelle pas dans cet exercice. Je préfère observer. Et ce n'est que plus tard que j'ai été amenée à jouer ce rôle de metteur en scène, à diriger, surtout dans mon travail de portrait.
Mireille Mathieu.
Rien n'est facile. Je trouve que rien n'est facile. Mais quand on le fait et qu'on a la chance, je dis bien, de faire ce métier, ça va beaucoup. C'est enrichissant de toute manière. J'ai eu le plus grand manager, Johnny Stark. Alors, vous savez, quand la première fois que je l'ai vu, il m'a dit, mademoiselle, vous voulez travailler avec moi? Je lui ai dit, oui, monsieur. C'était un personnage assez atypique. Mais je la remercie au contraire. Je la remercie. Parce que, il m'a dit, mademoiselle, ça va être très dur. J'ai dit, oui, monsieur. J'étais comme, mais je ne pensais pas que c'était aussi difficile que ça. Mais je suis partie en tournée avec Hugo Frey, enlevé du rideau à juste titre, parce que je n'étais pas connue, pour me familiariser avec la scène et le public. Et on me filmait en même temps pour voir mes défauts sur scène, comment je chantais, comment j'interprétais, pour après me corriger. Et Hugues a été exquis, parce que bon, moi je chantais au lever de rideau, je n'étais pas annoncée, ce qui était normal. Il était là présent, il me donnait des conseils. Et c'était bien parce que je faisais mes classes.
Cécile Coulon.
Il y a quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement logique qui est affreux, c'est qu'aujourd'hui, les auteurs, sur un livre qu'ils écrivent, sont ceux qui touchent le pourcentage le plus faible. Et ça ne choque personne, visiblement, à part les auteurs eux-mêmes, puisque, comme on l'a entendu tout à l'heure, la plupart vivent très 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 mal de leur plume.
Héloïse d'Ormesson.
Alors, pour moi, c'est une énigme. Je ne comprends pas, parce que les éditeurs et les auteurs, c'est vraiment même combat. Ils s'enrhument, on éternue. On a les mêmes objectifs.
Alors évidemment, ces livres ne seraient pas publiés ni imprimés sans les éditeurs, mais qu'on cesse enfin cette guerre entre éditeurs et auteurs.
Remettre l'auteur au centre du projet, du travail, en fait.
Qu'il soit au centre du projet et que l'auteur, dans les maisons d'édition, soit au courant de ce qui se passe autour de son livre, à quoi ressemble cette fameuse chaîne du livre, parce que sur un livre, on oublie qu'il y a quand même 10 personnes qui sont payées, et que l'auteur est tout au bout.
Il y a une méconnaissance complète de l'économie du livre. Un éditeur touche moins qu'un auteur sur le prix du livre. Un auteur, disons en moyenne, touche 10% du prix du livre. L'éditeur, quand il a payé, l'imprimeur, le compositeur, le correcteur, toute son équipe.
Donc l'enjeu, il n'est pas dans la tension entre l'éditeur et l'auteur.
Mais pas du tout.
Et
les auteurs se trompent complètement. Paye ton auteur. Enfin, quel est l'éditeur qui ne paye pas son auteur ?